Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, enchantés, chanteurs, enchanteurs, il est midi ou peut-être 17h et vous écoutez L'Onde Curieuse, bienvenue. Aujourd'hui, on s'éclaircit la gorge de l'Ardèche et on prend une grande bouffée d'air frais. Alors je vous parle pas de météo, ça je laisse ça à Sylvain, bonjour Sylvain d'ailleurs.
Bonjour.
Non, une grande bouffée d'air connue, célèbre, telle ceux de Debussy ou Mozart, mais frais, joyeux, enlevé. Une grande bouffée au sens de l'opéra bouffe, une opéra bouffée d'air frais, qui sent l'hibiscus et le palissandre et qui s'adresse notamment aux jeunes pousses, aux herbes fraîches. Une opéra bouffée d'air frais qui nous fait nous envoler, des envolées lyriques, certes, mais celles aussi qui nous font monter dans les tours, qui nous font rire, qui nous font prendre de la hauteur, comme un voyage en montgolfière, est capable d'atterrir sur tout terrain. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle création en cours, un piccolo opéra pour trois voix et violoncelle, un piccolo opéra végétal pour toute la famille, qui se dit tout terrain, Hibiscus et Palissandre, écrite par Philippe Forget, avec l'humour qu'on lui connaît, et qui sera présentée du 13 au 15 juin dans le cadre du festival La Baume en musique. Et pour parler des coulisses de ce spectacle en train de se faire, on a le plaisir de recevoir les trois interprètes en résidence de création en ce moment en Ardèche. Clémence Lévy, soprano, bonjour Clémence.
Bonjour.
Soprano et metteuse en scène d'ailleurs, bonjour. Mathieu Justine qui est ténor, bonjour.
Bonjour.
Et également avec nous, c'est l'invité surprise, Antoine Payen, violoncelliste et comédien. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci tous les trois d'être là pour commencer d'ailleurs cette semaine de création. Mais avant, donc on en parle de tout ça dans un instant, mais avant, un agenda avec un goût un peu spécial aujourd'hui puisque c'est le dernier agenda de Clara.
Et on commence cet agenda avec la 10e édition du Festival Palestine en vue qui commence mercredi. C'est un festival de cinéma palestinien qui a lieu en région Auvergne-Rhône-Alpes et ce sera avec 4 projections au cinéma Le Navire à Oubena. Et mercredi, ce sera le documentaire de Piero Usberti, Voyage à Gaza. Le film se déroule en 2018 à Gaza. Le réalisateur, qui a 25 ans à l'époque, va rencontrer des jeunes palestiniens de son âge. Le film sera visible à 18h et jeudi à 20h30. C'est le film collectif. Le titre en anglais, ça me réussit pas toujours.
Vas-y, lance-toi, ça y est, c'est ton moment. Vas-y, Clara.
Pour le dernier, From Ground Zero, ça va?
Oui, parfait.
Qui est à voir à 20h30. Et en fin 2023, Rachid Macharaoui parvient à fournir 20 caméras à des cinéastes vivant dans la bande de Gaza. Et ces films expriment autant les talents artistiques de chacun que la vie quotidienne, les peurs, les rêves, les espoirs des Gazaouis. C'est à voir jeudi à 20h30 au cinéma Le Navire à Aubena. Et on continue avec du cinéma, avec le Printemps du Doc qui continue et la Maison de l'Image, toujours en partenariat avec l'association Les Écrans, propose demain à la salle de cinéma de Lussas à 20h30 la projection du documentaire Les fils qui se touchent, réalisé par Nicolas Burlot, un film qui explore à la fois le cerveau humain, la mémoire personnelle et collective. C'est une réflexion subtile et prenante sur les liens indéfectibles entre le moi et le collectif. Et il y aura un verre à l'issue de la séance. Et enfin, pour terminer, le mois d'avril, c'est le mois de la petite enfance sur la communauté de communes du bassin d'Aubena, avec de nombreuses animations et ateliers dédiés aux enfants, aux familles et aux professionnels de la petite enfance. L'inauguration, c'est mercredi à 11h15 à la médiathèque Jean Ferrat à Aubena. Et durant tout le mois, plusieurs ateliers ouverts au public, avec par exemple jeudi de 10h à 11h, Bébé Signe, à l'accueil enfants-parents du centre socio-culturel LASA à Aubena. L'objectif de ces ateliers est de faire découvrir aux familles la communication enrichie par les signes. Vous pourrez retrouver tout le programme du mois de la petite enfance sur le site de la CCBA, bassin-aubena.fr.
Et c'est la fin de cet agenda, c'est la fin de ces agendas. Merci beaucoup Clara pour ce compagnonnage de 9 mois ici avec nous. C'était voilà, bien chouette, on va tout de suite passer en musique.
De grâce, écoute-moi, sois bonne.
je suis cruel, oui je le sais, mais rends-moi ton cœur et pardonne à qui t'aime plus que jamais.
Non, non, je ne veux pas vous entendre.
Des larmes dans tes yeux, c'est pour ton départ, Clara. Ciao. C'est une dédicace, peut-être sans le savoir, de la part de Clémence Lévy, soprano, et Mathieu Justine, ténor, que vous venez d'entendre et qui interprétait Pomme d'Api d'Offenbach. Merci à tous les deux d'être là. Et merci également à Antoine Payen, violoncelliste et comédien. Vous êtes tous les trois ici pour débuter une semaine de résidence de création pour la prochain spectacle, donc l'Opéra Piccolo, comme on l'a appelé, qui est présenté aussi comme un grand éclat de rire, lyrique, tout terrain pour toute la famille, une sorte de comédie romantique enlevée, non, sur fond de préoccupation environnementale. Alors, je ne sais pas si je suis sur la bonne piste, puisque définir un projet sur papier, c'est très très compliqué, mais vous allez nous dire, donc vous qui êtes là justement pour créer ce spectacle, comment vous le présentez, ce spectacle ? Hibiscus et palissandre.
Alors déjà, c'est né d'une rencontre avec un chef et compositeur qui s'appelle Philippe Forget.
Et librettiste,
oui, parce qu'en fait, il nous a envoyé des contes qu'il avait écrits. On s'est dit, ouais, c'est super les contes que t'écris, tu pourrais pas nous écrire une petite histoire. Et donc c'est Philippe qui dirigeait l'enlèvement au sérail qu'on a fait en 2022 à La Baume en musique. Et donc de cette rencontre, nous on avait créé une association qui s'appelle Opéra en Liberté pour amener l'opéra dans des lieux atypiques et faire découvrir l'opéra à des gens qui connaissent pas forcément. Et du coup, Philippe nous a proposé de nous écrire un opéra pour nous, pour Opéra en Liberté. Et donc c'est comme ça qu'est née l'œuvre. Donc il nous a d'abord écrit un livret qu'on a lu il y a un an et demi, et puis il nous a écrit la musique qu'on a eue il y a 6-7 mois, quoi. Et donc, qu'est-ce que...
Mais tout est création, c'est-à-dire la musique. Alors, j'ai pu lire que, voilà, ça pouvez reprendre des airs connus. Non, tout est création.
Tout est création. Mmh. Ensuite, c'est inspiré. Effectivement, il y a des inspirations qui font penser à Poulenc, qui font penser à Ravel, qui font penser à Debussy. Donc, il y a des inspirations qui nous emmènent dans des mondes musicaux qu'on connaît plus ou moins bien. Mais tout est création.
Mmh. Et l'histoire, en quelques mots sans trop dévoiler, alors, peut-être.
L'histoire, c'est l'histoire d'arbres qui veulent s'enfuir d'une forêt exploitée.
Donc, il y a quoi ? Un message ? Un sous-texte ? Une sensibilité
Une sensibilité, oui. Ça, c'est sûr. Ça vibre dans les feuilles.
Ouais. Oui, une sensibilité à la nature et à comment l'homme exploite son environnement de diverses manières. Et comment on peut sensibiliser la jeunesse, notamment à y a un arbre, il y a une fleur, si on les coupe, si on les brûle, ça va changer quelque chose dans l'espace. Donc il y a une fleur qui va être allergique parce qu'il y a des choses qui brûlent, il y a des choses qui sont coupées.
Et ça, c'est un spectacle, alors, qu'on dit pour enfants, ça veut dire quoi d'abord ? Pour enfants, jeunes publics, pour toute la famille, c'est-à-dire que j'ai vu que c'était accessible à partir de 6 ans.
Oui, après, il faut donner des âges, mais en vrai, moi, je trouve que c'est tout le monde peut voir ce spectacle, c'est famille. Alors oui, effectivement, des trop jeunes peuvent aussi décrocher, voilà, mais en fait, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est appelé spectacle famille, parce que il y a plusieurs lectures. C'est comme toute fable, comme tout conte. Il y a plusieurs lectures et puis il y a aussi la beauté de la musique, la vibration des voix, la vibration du violoncelle qui interpelle, qui va chercher le public. Et puis il y a aussi la mise en scène. La mise en scène au-delà de la musique, au-delà de l'histoire. Voilà, il y a des personnages qui vivent. Qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on va entrer en interaction avec notre public ? Avec tout simplement les humains qui sont avec nous à ce moment-là.
Clémence, tu parles de mise en scène. C'est toi qui fais la mise en scène de ce spectacle ?
Alors, c'est Samuel Tassinage qui va assurer la mise en scène de ce spectacle. On a beaucoup de chance.
D'accord.
Et il nous rejoint demain pour la résidence. On l'attend avec impatience.
Alors justement, où en êtes-vous aujourd'hui de la création de ce spectacle ? Vous commencez tout juste ou il y a eu une étape préliminaire ?
Il y a eu une petite étape. On s'est vu.
Antoine, donc.
Oui, bonjour à tout le monde. Non, parce que les chanteurs parlent.
Hein,
on sait que. Mais, en fait, je suis là aussi.
De la voix.
Je suis là
mais
aussi.
Oui. Mais oui.
On s'est vu une petite semaine, il y a un mois, où on avait chacun la partition manuscrite, hein, difficile à lire, hein. Heureusement maintenant elle est imprimée, mais où on a passé en fait à déchiffrer tout simplement, c'est-à-dire à lire ligne par ligne ce qu'il fallait jouer pour le violoncelle, ce qu'il fallait chanter, et puis à mettre ensemble, voir ce qu'il faut faire pour le tempo, les nuances, etc. Toutes les indications qui sont marquées sur la partition. Et on est comme ça, on défriche comme une sorte de navire brise-glace qui avance petit à petit, là, ligne par ligne. Et ça, c'est un travail qui est indispensable, forcément, qui est un peu long, mais qui nous permet aussi d'aborder cette semaine peut-être plus facilement, parce que comme on connaît déjà un petit peu ce qu'il faut faire techniquement, on va dire, ça permet de créer une mise en scène de manière un petit peu plus facile.
Parce que là, pendant cette semaine, est-ce que vous avez un objectif ? Est-ce qu'il faut que vous ayez créé quelque chose en particulier ? Ou pas du tout ? Vous y allez tranquillement et c'est juste le plaisir de voir ensemble peut-être la mise en scène ou comment ça...
Il faut qu'on s'entende bien à la fin de la semaine encore.
Oui, il ne faut pas qu'on s'entretue.
Si possible.
Non,
l'objectif, c'est quand même d'aller le plus loin possible, mais toujours dans le plaisir et justement de pouvoir garder, dans la création, c'est très important de garder le côté du plaisir, parce que c'est ça ensuite qui va être transmis au public. Et du coup, c'est ça aussi l'idée, c'est de garder, nous, notre passion de la musique et de pouvoir faire vivre tout ça comme chaque plein de petites étincelles. Quoi.
Et justement, vous parlez là de plaisir de la création. Comment on aborde, alors est-ce qu'on aborde un opéra pour enfants ou pour toute la famille, enfin pour enfants, est-ce qu'on l'aborde différemment? Est-ce qu'on joue, est-ce qu'on interprète, est-ce qu'on s'adresse? Alors d'abord, est-ce qu'on s'adresse dans un opéra à un public particulier? Mais quand on a des enfants dans le public, est-ce qu'on module son jeu?
Je pense que, comme tous les publics, on va s'adapter. Chaque fois est différente, en fait. Mmh. Surtout quand on a des opéras hors les murs, où on va vraiment à la rencontre de publics qui sont souvent nouveaux, donc qui n'ont pas forcément les codes de l'opéra, qui peuvent être des codes, c'est bien d'avoir les codes, mais en même temps, des fois, c'est très enfermant aussi. Du coup, on va essayer de tendre la main et puis de voir en face si ça répond ou pas. Et après, que ce soit pour enfants, que ce soit pour adultes, que ce soit pour famille, ça, moi, j'ai un peu toujours envie de dire que c'est faire avec sa sensibilité et la sensibilité qui répond en face. Et après, oui, dans la mise en scène, certainement que peut-être il va y avoir un peu plus de pantomime, un peu plus de masques, un peu plus, un petit peu plus, on va peut-être un petit peu plus chercher l'interaction avec le public. Mais en vrai, nous, dans ce qu'on fait avec Opéra en Liberté, ça nous arrive souvent d'aller jouer hors les murs. Et c'est quelque chose que même pour le tout public, on va chercher un clin d'œil, on va chercher un sourire de la personne en face, quel que soit son âge. Mmh.
Mais en tout cas, pour compléter l'histoire de est-ce qu'on va faire différemment, d'une certaine manière, on va faire pareil qu'avec un opéra pour adultes, entre guillemets, enfin pour grand, pour pas pour enfants quoi. On va prendre un texte et on va l'aborder comme un interprète, comme un musicien, de la même manière qu'une œuvre de Mozart, Verdi, Puccini.
On va être au service de l'histoire. Qu'est-ce qu'on raconte? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que veut dire notre personnage?
Et alors, qu'est-ce que veut dire votre personnage? Qu'est-ce que veut dire Hibiscus?
Hibiscus, ça veut dire on est tous frères sur cette planète, on est tous ensemble, donnons-nous la main et essayons de construire un monde meilleur, les gars. Réveillez-vous, ouvrez les yeux.
Et Palissandre, qu'est-ce qu'il dit, Palissandre? Alors, bon, de quoi il a envie, Palissandre?
Palissandre, c'est un peu le méchant de l'histoire, mais il va être aussi une espèce de symbole de l'homme qui s'auto-détruit lui-même en détruisant son environnement, puisque Palissandre, c'est un arbre qui exploite d'autres arbres. Donc, il coupe des arbres donc c'est une sorte aussi de vraiment d'autodestruction directement. Et il y a cette espèce de schizophrénie. C'est un arbre, c'est un humain, on sait pas vraiment parce que... C'est ce personnage qui va faire le lien avec l'humain, et puis à la fin il va y avoir une sorte de repentance aussi.
Mais on ne dévoile pas trop la fin.
Sans dévoiler la fin.
Alors voilà, c'est foutu.
Bon bah voilà, vous avez tout vu.
Inutile de venir entre le 13 et le 15 juin voir cette création. Faites autre chose. Non, et jouer. Tu as parlé de méchant. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à faire affleurer cette palette d'émotions?
Oui, il y a un plaisir. Le plaisir de l'interprète, l'acteur ou le chanteur, c'est d'avoir un personnage et de le défendre coûte que coûte. Donc de ce méchant, pas jouer le méchant, mais jouer quelqu'un de très sincère et qui a des envies. Et ça va aussi...
Et qui a des raisons d'être méchant.
Et qui a des raisons d'être méchant. Et du coup, on va être touché par ce personnage et il va laisser apparaître aussi, comme parfois il peut y avoir de l'ambivalence dans les choses qui se passent. Toi, t'es un traître ou t'es un méchant, c'est pas bien ce que tu fais. Oui, bah, on peut aussi avoir le droit à une seconde chance, se reconstruire, se remettre en question, se dire « Ah, c'est peut-être pas top ce que j'ai fait là. » Mais voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. C'est...
Et Paul Érable, c'est ça?
C'est ça. C'est
Paul Érable, c'est le troisième personnage interprété par Antoine Payen.
Je vais dire de Paul Érable, un peu plus léger comme personnage, hein, qui est amoureux d'Hibiscus, hein, soyons francs. C'est dit au début, ça.
Ça met un peu de piquant.
Ça, dit au début, c'est ça. Donc ça, je ne spoil pas.
Mais Palissandre aussi, il est un peu amoureux.
Oui, c'est ça.
Ouais. Enfin bref, on ne spoil pas plus qu'une bande-annonce, quoi. C'est une grande bande-annonce, là, qu'on fait.
Donc, Paul Érable, c'est un personnage Oui, un petit peu plus léger, qui est désireux de bien faire et qui comprend peut-être pas toujours tout très vite, hein, mais avec de la bonne volonté, ça devrait marcher.
Et la place du violoncelle dans cette pièce?
Ah bah, elle est plutôt centrale, je dirais, puisque c'est le seul instrument. Hein, donc, si on considère les voix, ouais. Bon, la voix, c'est un instrument. C'est le seul instrument pas intérieur. Donc du coup, oui, bah, c'est aussi la grande spécificité de cette œuvre, hein, presque plus que de dire que c'est pour enfants ou du public, c'est que c'est un mini-opéra, surtout dans la formation, quoi, avec vraiment deux chanteurs lyriques et un seul instrument, le violoncelle. Donc ça, c'est vraiment pas du tout courant, mais Philippe Forget reprend vraiment l'écriture opératique pour les voix, notamment, et c'est ça qui est vraiment très original, je trouve, dans cette œuvre.
Et alors, on dit souvent que le violoncelle, ça s'approche vraiment à la tessiture de la voix. Est-ce que, par exemple, il est écrit justement comme une troisième voix ou pas? Ou alors là, est-ce que c'est juste un lieu commun que je continue de perpétuer?
Non, on ne permettrait pas de dire ça. mais oui.
Voilà.
Alors, plus qu'une troisième voix, je voulais dire, là, il est seul à faire ce qu'on appelle l'orchestre en général. En général, l'orchestre, c'est 40 ou 50 musiciens. Et là, le violoncelle fait l'orchestre à lui tout seul. Donc c'est pour dire aussi la place, l'importance de ce violoncelle. Et en plus, il joue un personnage. Donc c'est...
Ouais. Travail.
J'espère que tu es bien payé pour...
avant tout un métier passion. Hein.
On parle depuis tout à l'heure de cet aspect de tout terrain, petite forme. Donc là, on l'a entendu, hein, une petite forme. Vous êtes trois, vous pouvez partir en voyage en montgolfière, comme je disais tout à l'heure, pour vous poser un peu n'importe où. Vous avez l'habitude, opéra en liberté, de fonctionner comme ça? Et si oui, est-ce que ça a quelque chose... Enfin, est-ce que vous le souhaitez particulièrement, ça, de se permettre ce type d'opéra?
Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est né d'ailleurs du premier confinement où, en fait, on a été invité à chanter dans une cité de région parisienne et où il n'y avait plus de salle de spectacle ouverte. Et du coup, on a chanté en bas des tours et tous les gens étaient vraiment sur leur balcon. Et du coup, on a touché des personnes qui pensaient absolument pas un jour rentrer dans une salle de spectacle. Et ensuite, ils sont venus nous voir et nous ont dit « c'est super en fait, il y a de l'émotion qui passe ». Et du coup, on s'est vraiment, on s'est un petit peu penché sur cette histoire. Et ça nous arrive assez souvent de refaire ce type de spectacle et d'investir aussi. Puisque je suis aussi metteuse en scène et on investit effectivement les lieux du quotidien des gens en les surprenant, en grimpant sur un pont, en utilisant une porte vitrée et en mettant l'opéra chez eux. Et ça... Pour n'importe qui, il y a la petite surprise et de la vibration de la voix, et ça marche toujours.
Mmh. Et là, d'ailleurs, les trois représentations vont avoir lieu dans des lieux différents. Donc, vous allez les créer à chaque fois in situ. Il y aura peut-être des modifications.
C'est une adaptation qu'on pratique très souvent, s'adapter au lieu. Et ça nous tient très à cœur aussi de mettre en valeur le lieu dans lequel on est. Si c'est un lieu du patrimoine, si c'est un lieu naturel ou si c'est un lieu de vie, on va mettre ça en valeur. Donc à l'intérieur du spectacle, il y a comme un canevas et il y a des endroits spécifiques où nous, on va aller vagabonder, quel que soit le lieu donné. Donc on arrive une, deux heures à l'avance et on dit « Ah oui, là on va utiliser ce spot, il est trop bien. Là on va utiliser ça, c'est encore mieux. » Voilà, et donc Mathieu et moi qui serons mobiles puisqu'on n'a pas un instrument fixe, on pourra justement utiliser ça... Et ce qu'on a l'habitude de faire en plus.
Donc il y aura des petites différences entre vendredi 13 juin, ce sera au château d'Aubenas. Vous allez repérer les lieux tout à l'heure, je pense. Samedi 14, ce sera à la commanderie de Jalès, aussi un autre lieu complètement extraordinaire. Ouais. Et dimanche 15 juin, ce sera au Rocher des Curés, à la Baume, là aussi. Waouh. Trois lieux, vous avez de la chance.
Oui.
Et sans doute nous aussi, pour vous voir, mais c'est vrai que ce sont des lieux extraordinaires. On disait, j'ai lu plutôt j'ai lu que avant le spectacle, il y allait y avoir une petite partie un petit peu interactive avec les gens de 15 minutes.
Tout à fait, ça fait partie du spectacle en fait, de vraiment de mettre le public et notamment les jeunes en immersion avec ce qu'on va faire ensuite. Donc c'est apprendre un petit bout d'un des airs tous ensemble et aussi de construire quelques ambiances sonores qui vont ensuite que tout le public va devoir restituer au cours du spectacle. Donc c'est très ludique et ça va être tranquille.
Oui, c'est ça, ça va être tranquille. Quelquefois, ça fait un peu peur.
Oui, non, c'est tranquille. Et puis, tout le monde sera ensemble et on sera là pour vous accompagner. Donc.
J'avais une question, peut-être de manière un peu plus générale. Dans un monde où on est, où tout le monde nous vend des expériences et des expériences immersives tout le temps, des expériences à 360 degrés, est-ce que pour vous, qui pratiquez un art, l'opéra, qui est censé au début, enfin depuis quelques siècles, être précisément cet art immersif 360 degrés, est-ce que ça change quelque chose pour vous ?
Le fait que
maintenant tout est tout le temps immersif, hein, tout est censé être une expérience interactive, immersive. Est-ce que du coup ça vous pousse, vous, à essayer autre chose ?
Moi je pense que c'est plutôt un désir de se rapprocher des gens et d'une forme de sincérité et de contact direct avec le public. Nous en tant qu'artistes, d'être en connexion, c'est pour ça qu'il y a cette interactivité et cette préparation avant. C'est un spectacle, c'est des interprètes et un public, et il y a toujours un aller-retour entre les interprètes et le public, qu'ils soient sur scène ou que l'espace soit explosé. Et c'est simplement, nous, c'est dans notre ADN aussi en tant qu'artiste, de se dire, là, on explose les murs et l'espace scénique, il est partout. Il est même dans le public. Et c'est l'idée aussi de rejoindre l'idée d'universalité. L'opéra, c'est pour tout le monde, l'accessibilité à tous. Moi, je trouve que cette histoire d'immersion, de plus en plus, moi, je me sens pas concerné par cette chose-là. Je dirais que c'est vraiment l'idée de partager de manière le plus authentique possible.
Après, le spectacle vivant est par essence immersif, en fait, parce qu'il y a cette vibration qu'on partage en direct, sans écran, quoi. À tous les niveaux, en fait. Mmh. Et ça, c'est assez génial. C'est assez jouissif. On a vraiment de la chance de faire ce métier aussi pour ça.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Antoine ?
Je les écoutais, c'est très beau ce qu'ils disent.
On entend bien ce qui vous fait, ce qui vous motive, ce qui vous passionne, cette vie. Tu as parlé plusieurs fois de vibration, ce lien, être en contact en direct. Tu parlais d'authenticité aussi, Mathieu. Vous allez proposer un temps en amont de ces trois représentations, le 11, je crois que c'est un mercredi à la médiathèque, justement, une sorte de pré-spectacle. On me dit, dans mon oreillette, à l'espace culturel de Saint-Cernin. Merci. À l'espace culturel de Saint-Cernin, oui, le 11, et en plus je l'ai marqué, c'est gratuit, sur réservation uniquement auprès de la médiathèque d'Aubenas. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qui va se passer là
ça n'aura rien à voir avec le spectacle. Donc, on peut vraiment venir aux deux. On entendra plus des airs du répertoire d'opéra. Et on va raconter, en fait, dans un mini-spectacle qu'on a écrit, rien que pour vous, de cette rencontre, en fait, entre un violoncelle, une soprano, un ténor.
Que se passe-t-il ? Vous le saurez le 11 juin à l'espace culturel de Saint-Cernin, au centre culturel de Saint-Cernin. Et puis, pour le reste, aussi, donc, du 13 au 15 juin, votre spectacle Hibiscus et Palissandre, à voir donc dans des lieux incroyables. Les réservations se font sur le site de La Baume en musique, bien sûr, puisque, on l'a dit au début de cette émission, ça a été écrit et complètement créé par Philippe Forget. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Clémence Lévy, soprano, Mathieu Justine, ténor, et Antoine Payen, violoncelliste et comédien, de nous avoir parlé de ce spectacle. Un petit mot aussi, si vous voulez plus de musique classique sur Fréquence 7, ça se passe les premiers et les troisièmes dimanches du mois à 19h, et ça s'appelle Oscillation atemporelle, présenté par Marie et avec la complicité aussi de Philippe Forget de La Baume en Musique. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisqu'à 13h, c'est Haïku tout court, à 15h, le Telex, à 17h, la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h, Solidaire d'abord, à 19h, Tu danses, et à 21h, c'est Hexagone Live, la rediff de DJ Steph, toujours Miles Davis, 1956-1957, me semble-t-il. Voilà, merci beaucoup Sylvain pour la réalisation de cette émission, et merci, merci encore Clara pour ces 9 mois passés auprès de nous. Hey!